Vous écoutez France Culture.
Merci de nous retrouver dans C'est une vie, une œuvre de l'été. Nous parlons aujourd'hui de Frédéric Dard, 1921-2001. En réalité, on ne sait pas très bien si l'émission que vous allez entendre porte sur Frédéric Dard lui-même ou sur son double, San Antonio, tant les deux se sont confondus au fur et à mesure de la publication des près de 175 romans rédigés sous ce pseudonyme. Cocteau avait bien vu le style et l'originalité de Frédéric Dard, lui qui avait qualifié son livre « Ça tourne au vinaigre » de chef-d'œuvre de désinvolture et de force expressive. Voici donc notre portrait de ce personnage double, nous le devons aujourd'hui à Victor Massé de l'Épinay et à Jean-Claude Loiseau dans une émission diffusée une première fois, c'était le 22 juin 2013.
Passez-moi la Joconde. Messieurs les hommes, du mouron à se faire, j'ai peur des mouches.
Du plomb dans les tripes, des dragées sans baptême.
Prenez-en de la graine.
Des clientes pour la morgue, descendez-le à la prochaine.
Fleur de nave,
vinaigrette. Tout le plaisir est pour moi, du sirop pour les
guêpes. Mangez tais-toi.
Sans oignon chez les macs.
Bravo docteur Béru.
Vas-y Béru.
Ma langue au chat.
Remets ton slip gondolier, chérie passe-moi tes microbes, une banane dans l'oreille.
Le coup du père François.
La vie privée de Walter Closet.
Concerto pour porte sur thème.
Mon culte sur la commode.
Valsé, Poufias.
Vol au-dessus d'un nid de cocu.
On liquide et on
s'en
va.
Si ma tante en avait.
Bon baiser où tu sais.
Du brut pour les brutes.
Voté Berrurier. Salut mon pote.
Plein les moustaches.
Trouillomètre à zéro.
Berrurier au sérail.
Bacchanal chez la mère Tadine.
Faites chauffer la colle. Turlute gratos, séjour férié.
Dégustez gourmande.
Les huîtres me font bailler.
En avant, la mougique.
Le gala des emplumés.
N'en jetez plus.
Ceci est bien une pipe.
Mes titres sont poilonnés.
Hein. Oui, c'est le Vermeau.
C'est le Vermeau. Mais c'est délibéré. Mais c'est depuis le temps que ça dure. Hein, ça ne trompe plus personne. Les gens savent ce qu'ils vont trouver dans mes bouquins. Alors, je viens les chercher. Je leur donne un truc, c'est le clin d'œil. Ça commence par le titre. Ça commence par le titre, un bouquin. Et alors, ce titre, hein, « Fais-moi des choses », ça fait marrer. La preuve, vous riez en posant
oui,
la question.
Là, oui, énormément.
J'en écris un depuis qui s'appelle « Viens avec ton cierge ».
Oui. Hein.
Je suis en train d'en écrire un qui s'intitule « Mon culte sur la commode ».
Mais bon, une question, là, vous en écrivez combien par
quatre.
Année
quatre par quatre, an. Quatre, depuis très longtemps, j'en
c'est,
ai écrit quatre.
C'est sur contrat.
Inexorablement. C'est une convention.
Vous faites pour écrire quatre livres par an?
Je travaille. Mmh. Comme je ne peux pas m'empêcher de travailler, c'est très facile. Au contraire, je travaille même en écrivant quatre, j'ai réfréné ma production.
Qui allait jusqu'à combien de titres?
J'en ai écrit jusqu'à 8 par an. Et puis j'ai décéléré, je me suis dit non, ça n'arrive à rien. Il faut quand même que je prenne un peu de recul, il faut que j'essaye de les écrire plus calmement, un peu mieux. Je me dis, je vais peut-être décélérer, je vais faire autre chose. Mais faire quoi?
Il écrivait 25 feuillets par jour. Bon, c'était une production énorme, même si Simenon, lui,
François Rivière.
20 ans auparavant, écrivait jusqu'à 80 feuillets, mais Simenon, c'était un vrai monstre. C'était un phénomène de foire, là, quasiment. Quoi. Mais Frédéric, lui, il est quand même 25 pages, c'était pas mal. Enfin, 25 feuillets, c'était quand même beaucoup.
Je suis un être de jaillissement. Vous comprenez? On ne peut pas dire au Stromboli de se calmer et de balancer des laves de grande qualité.
Mais quand on entendait justement sa machine à écrire qui crépitait lentement, il avançait, mais c'était effectivement un jaillissement, mais un jaillissement lent, quoi. C'était un peu comme une espèce de lave qui s'écoule d'un volcan, mais il s'arrêtait toutes les trois lignes. Il lui arrivait de consulter justement des dictionnaires d'argot qu'il avait toujours près de lui dans son bureau. Il travaillait beaucoup.
C'était une sorte d'haltérophile de l'écriture. Moi, je le voyais comme ça. C'est-à-dire, il était tenu par contrat d'écrire je ne sais combien de San Antonio par an. Donc, c'était un forçat, voilà. C'était pas un forçat de la route, mais c'était un forçat de la page.
Jean-Louis Hésine.
Il y avait un côté... Ah, si je vous montrais qui j'étais vraiment... Si j'osais vraiment vous montrer qui je suis, enfin vraiment c'était, il n'y avait pas cet orgueil, je veux dire c'était quelque chose qui se déduisait voilà, de ce qu'on lisait, de ce qu'on entendait quand on avait la chance de le rencontrer. Même si ses protestations quant à son talent, qui de toute façon était, son talent était énorme bien sûr, mais elles ne l'ont jamais détourné d'une conviction très noire chez lui qui était que sa littérature ne l'exprimait pas. voyez, on va le dire comme ça, c'était un homme et un écrivain profondément dépressifs, à cause de ça, notamment. Et puis en même temps, effectivement, c'est quelqu'un qui se cachait tout à fait derrière des confessions qui étaient parfois rudes, dans lesquelles il ne se ménageait pas, qui dénotait un rapport très polémique avec soi, voyez.
Mais je pense que c'est là-dedans que j'ai mis tout ce qui me gonflait, tous mes fantasmes, tous mes chagrins, toutes mes misères d'homme, tout est là. C'est une confession absolument, même impudique. Je déverrouille quelque chose. Vous voyez, depuis ma naissance, je souffre du bras gauche, j'ai le bras gauche atrophié. Bon, et toute ma vie, j'ai essayé, j'ai tout fait pour que ça ne se remarque pas
trop. Je ne l'ai jamais remarqué, c'est la première fois que je le sais.
Ben, je te remercie, ça fait 35 ans que nous nous connaissons. Et tu ne l'as jamais remarqué parce que justement, j'ai triché toute ma vie. Et au fond, c'est l'histoire de cette tricherie qui m'a amené à écrire ce livre. Je l'ai intitulé, ce titre baroque, je vais m'en expliquer. Faut-il tuer les petits garçons qui ont les mains sur les hanches? Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai retrouvé une photographie qui sert de couverture à ce livre, qui est une figure qui me représente à 4 ans. Et j'ai constaté sur cette photo que j'avais les mains sur les hanches. Or, pour que j'aie les mains sur les hanches, il fallait que j'aie mis ma main gauche avec ma main droite. Donc, que conscient devant un objectif, je triche. Je triche déjà. Donc, à 4 ans, j'étais une espèce de petit tricheur, comme tous les hommes, comme les adultes. C'était déjà de la graine d'adulte. Et c'est une espèce de révolte contre cet état. Faut-il tuer les petits garçons qui sont déjà des petits dégueulasses à 4 ans?
Ce qui est le plus important dans l'enfance de Frédéric Dard, c'est le rôle qu'a joué sa grand-mère, évidemment. Celle que tout le monde, dans le petit village où elle le recevait pour les vacances, ou même en dehors de ça, tout le monde appelait Madame Larousse, parce que c'était une petite bonne femme qui n'avait évidemment pas fait d'études, mais qui s'est intéressée à énormément de choses. Quoi. Ça allait des faits divers criminels au roman de René Boilev ou André Theurier. Enfin, c'était vraiment... Elle ratissait large. Et du coup, elle faisait lire, ou elle lisait à son petit-fils des livres. Elle lui achetait tout ce qu'il avait envie de lire. C'est-à-dire qu'elle lui achetait aussi bien des romans d'Alphonse Daudet que des Pieds Nickelés ou Bico. Et du coup, ça a fait cette espèce de culture complètement disparate, cette culture littéraire, et pas que littéraire d'ailleurs, totalement disparate de Frédéric, et ça l'a constitué, quoi. Et son imaginaire est né de... s'est nourri de toutes ces choses, et puis aussi de cette fantaisie de la grand-mère qui était vraiment un personnage, enfin, apparemment, un personnage totalement excentrique.
Ah, ça c'est mon père, ma mère, ma sœur, devant notre petite maison dans la banlieue de Lyon. Mon Dieu. Tu vois, tout le monde me dit, tu es dur avec ton père. Et je n'arrive pas à comprendre comment il se fait qu'avec l'amour que j'ai pour cet homme, avec la présence qu'il a d'une façon permanente et éternellement, tu vois, en moi, pourquoi suis-je critique? Je dis, il picolait, il faisait ça. Mais il ne faisait pas que ça, cet homme. Il lui arrivait de picoler. Il était d'ailleurs très drôle. 80% de ses bitures étaient sublimes de drôlerie. Et pourquoi ai-je cette absence de reconnaissance? Pourquoi disais-je toujours « ma grand-mère, c'est tout », tu vois? Parce que ma grand-mère, c'est tout. Bon, et voilà un bonhomme que j'adore, mon vieux Francis, qui s'appelait Francisque. On peut chialer facile hein, sur ce terrain-là, si on va plus loin.
Mais il faut dire que quand il quittait le petit monde, le royaume de sa grand-mère, il retrouvait ses parents, et notamment son père, qui était ce qu'on pourrait appeler un bras cassé, quoi. Quelqu'un qui ne faisait que des bêtises dans la vie, qui n'était pas fiable et tout, et dont la petite affaire de chauffagerie a fait faillite. Et le petit Frédéric a vu vendre à l'encan tous les meubles de la maison. Ça l'a traumatisé durablement. Le reste de sa vie, ça a été une revanche sur cette chose terrifiante, parce qu'effectivement, il était totalement hypersensible, enfin, il était sensible à tout, c'était absolument horrible. Il avait une expression pour désigner son milieu familial, il disait que c'était des éclopés de l'âme. Effectivement, c'était vraiment ça, donc il voulait s'en sortir, il voulait quitter ce milieu. En même temps, il en venait, donc c'était un aspect de hors-la-loi, quoi. C'est un personnage, il fallait absolument réussir, Il est arrivé par la littérature, mais il aurait pu devenir un gangster ou un comédien célèbre. Il était prêt à tout, en fait.
C'est quelqu'un qui ne s'aimait pas. Je crois que il y a, pour tout écrivain, une obligation de s'accepter avant d'entreprendre, de dire qui l'on est, surtout dans un pays de littérature confessionnelle, comme la France, notamment. Donc, là où vous êtes pratiquement obligé d'avoir un rapport de collaboration, je dirais presque, avec votre ego, avec votre moi. Et ce rapport-là, il ne l'avait pas du tout. Donc, son univers, il l'a fabriqué.
Dans ses mémoires, enfin dans les quelques livres de mémoire, notamment dans Je le jure, qui a été publié en 1975, je crois, Frédéric Dard revient sur des choses qui l'ont marqué énormément, quoi, c'est-à-dire la guerre qu'il a vécue à Lyon, et surtout la libération, enfin l'épuration à la fin de la guerre, où la ville était vraiment livrée à des gens enfin, qui faisaient très peur, quoi, aux bourgeois locaux. Bien sûr, il y avait les règlements de compte, donc il y a des gens, des collabos, ont subi la torture ou la mort. Enfin.
Il y a eu des abus. Il y a eu des... Écoute, je me souviens avoir vu juger, il y avait un petit libraire à qui je vendais beaucoup de bouquins de Granchet à l'époque, pendant l'occupation. Et, bon, la guerre se termine. C'est un type charmant, un petit bonhomme. Il était scout, il était dans les scouts. Tu vois le côté scout grandi, attardé. Il devait avoir des croûtes aux genoux, tu vois, sous son bénouse. Parce que et alors, ce type-là, un jour, quelle n'est pas ma stupeur, on jugeait trois miliciens. Il était avec eux. Et ce petit bonhomme timide, écoute, toujours comme il était dans sa petite librairie, et avec la tête penchée, comme ça, le petit scout fourvoyé. Et tu vois, le mec, condamné à mort, ça tombait comme ça. Et condamné à mort, et ce gars, je te jure, il me fait comme ça. Condamné à mort, il me fait un petit signe. Mais je l'aide, là, le signe qu'il m'a fait. Il partira jamais. Tu comprends? Ce mec qu'on flinguait sûrement pour des conneries, pour des trucs. Les périodes des actions sont monstrueuses. Les hommes sont monstrueux dans leur... Tu comprends, dans leurs outrances.
Et puis Frédéric a rencontré justement un type qui l'a fasciné, au point peut-être même d'en faire un peu le modèle du commissaire San Antonio, qui était justement un commissaire de police, qui s'appelait... Grégory Aleksinski, je ne sais pas, il était polonais apparemment d'origine, qui était un commissaire de quartier et qui était un joyeux fêtard. Un fêtard qui connaissait je ne sais pas comment on pouvait les appeler, les libérateurs ou les épurateurs lyonnais et qui emmenait Frédéric avec lui et sa bande d'amis enfin, à travers la ville. Et il a pu, comme ça, Frédéric a pu voir, assister à des scènes absolument terrifiantes qu'il a utilisées souvent d'ailleurs dans ses premiers romans. Les premiers San Antonio qui se passent pendant la guerre, en fait. On revient en arrière où certains de ces romans, justement, se passent au milieu des années 40, enfin au début des années 40, et montrent un peu des scènes absolument atroces. Le côté un peu sadique de San Antonio vient de là, à mon avis, enfin, ce côté qui fait peur, quoi.
J'ai des confrères. Pas si fraternel que ça, d'ailleurs. Avec le contenu de ce livre, ils bâtiraient toutes leurs hautes œuvres, rien qu'en délayant, en piochant l'atmosphère. J'en sais des ruisselants de la description. Pourtant, je pourrais, j'ai des dons. Un jour que l'ambition ultralittéraire me prendra, il n'y a que comme ça que je la conçois, moi, la littérature. Ça ne doit pas être un truc à plat, comme un sommier, mais quelque chose qui bondit de ses pages, tel un morpion de ses poils, et qui vous saute dessus, et qui vous bouffe ou vous inocule.
Françoise Rullier-Teret.
C'est un tresseur de mots, un violeur de la langue française depuis le début. Et c'est il a vraiment le sens de la langue, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et il a le sens en particulier de la langue parlée. On retrouve dans son écriture des formes de la phrase telle qu'elle est parlée qui sont vraiment mimétiques. Et c'est très étonnant. Et en même temps, il veut écrire contre la syntaxe, il a très peur des clichés, très peur d'écrire comme ça a déjà été fait avant. Et comme en plus son grand modèle, c'est Louis-Ferdinand Céline, qu'il découvre avec Voyage au bout de la nuit, il le découvre lui vers 1935 ou un truc comme ça, donc il le découvre assez tôt puisque ça a été publié en 1932. Et pour lui, Céline, c'est l'inventeur d'une langue nouvelle, et s'il n'y a pas de langue nouvelle, il n'y a pas d'écriture, puisque pour lui, le style, c'est ce qui va contre la langue et c'est pas du tout ce qu'on aurait pu appeler ou ce que les écrivains de paralittérature appellent le beau style. D'ailleurs, Frédéric Dard a bien conscience qu'il est un continuateur. Il dit « je ne fais qu'enfoncer des portes ouvertes qui ont été ouvertes avant moi ». Mais en même temps, ce qu'il reconnaît moins bien, c'est sa filiation avec le roman noir américain. Parce qu'au début, c'est quand même ça qui l'a marqué. C'est un peu le genre « j'irai cracher sur vos tombes ». Donc, c'est l'époque aussi qui veut ça. Mais ça, il ne le reconnaît pas trop. Enfin, il dit que quand même, la phrase courte, ça vient du roman américain. Mais bon, il n'en parle pas tellement. Et en fait, il prend même une posture un peu à la Rimbaud dans la lettre des voyants. Hein. « Moi, je vais faire éclater les choses. Et après moi, il y en a d'autres qui viendront ». Il y a cette espèce d'aspect un tout petit peu prophétique dans ce qu'il écrit.
Vous savez, moi, je n'avais qu'une... Je voulais faire carrière, mais une carrière que j'espérais pleine de noblesse. Je voulais avoir le concours, je voulais faire des pièces à succès, vous voyez. Et quand j'avais des velléités, comme avec « La neige était sale » que vous avez évoqué, que j'ai fait, « Simenon », etc., j'écrivais plus de San Antonio. Et De Caro est un homme fabuleux qui, tout le temps, me faisait venir, me disait « Vous perdez, là, vous perdez le contact avec vos lecteurs, et c'est ça la vérité, c'est ça qui vous amènera le succès. Et il faut persévérer, il faut suivre. » Et quand, quelquefois, je faisais du théâtre et j'avais un échec, il me téléphonait, il me dit « J'ai lu le Figaro ce matin, je sais dans quel état vous devez être. Venez, je vais vous faire un chèque et vous allez me faire un San Antonio. »
Le rôle de l'éditeur, enfin, et du futur beau-père de Frédéric, Armand de Caro, qui est un personnage important, même si pas très connu, son rôle a été justement de comprendre assez vite que San Antonio, enfin, le personnage et la série des enquêtes du commissaire San Antonio pouvaient vraiment connaître un vrai succès, quoi. Alors que Frédéric, lui, n'y croyait pas tant que ça. C'était un pseudonyme parmi d'autres, en tout cas un livre parmi une production qui n'était d'ailleurs pas que romanesque, hein, puisqu'il écrivait pour le théâtre au début des années 50, etc. Bon, Armand de Caro l'a un peu talonné, il a un peu dit « Bon, maintenant, faites-en davantage. Au lieu d'en faire un par an, il en faire deux, puis après trois, puis après quatre. » Et tout doucement, le succès est venu. Parce qu'on a à ce moment-là fidélisé un public selon une méthode qui était déjà celle d'Armand de Caro, éditeur, qui avait inventé un truc que aucun éditeur ne faisait, c'est-à-dire de vendre ses livres, qui étaient des romans populaires, les livres qu'il publiait, un peu partout. C'est-à-dire aussi bien dans des librairies que dans des bureaux de tabac au fin fond de la France, et en compte ferme, comme on disait, c'est-à-dire en obligeant les gens qui allaient vendre ces livres à ne pas pouvoir les renvoyer s'ils ne les vendaient pas. Donc c'est devenu une espèce d'entreprise extrêmement prospère que cette maison d'édition du Fleuve Noir, et Frédéric a été est devenu assez rapidement l'auteur vedette, et il a signé un contrat qui l'obligeait vraiment à produire chaque année un nombre assez important de livres, à la fois sous son nom et sous le pseudo de San Antonio. Mais c'est vrai que Armand de Caro a été vraiment décisif. Il en a fait cet auteur à succès, et Frédéric a eu confiance, pas très vite, mais au bout d'un moment, quand même, vraiment confiance en son personnage. Et puis, il est aussi arrivé très vite à saturation, et au milieu des années 60, il a voulu abandonner. Il a même été jusqu'à attenter à sa propre vie pour tuer San Antonio.
Le jour où les tirages des San Antonio ont dépassé et ridiculisé les tirages des Frédéric Dard, j'en ai conçu une espèce d'amertume sans fin.
C'est donc vrai.
Tout à fait vrai. Je me disais, mais mon Dieu, j'étais jaloux de la marionnette que j'avais créée et qui me faisait un bras d'honneur, quoi. C'était tellement extravagant que je me disais, mais c'est pas possible. Et à un moment donné, j'ai réalisé qu'il fallait que s'opère une jonction, que cette dualité, vous comprenez, n'était pas prolongeable indéfiniment. Et alors j'ai annoncé la couleur, j'ai dit que Saint-Antonio, Frédéric Dard, naninana, et vraiment j'ai étalé les brèmes au grand jour, qu'on sache bien que j'étais... Alors là, j'ai éprouvé un réconfort, enfin un apaisement, et depuis je suis même allé jusqu'à décider de tout signer Saint-Antonio. C'est-à-dire moi, l'auteur Frédéric Dard, de se mettre dans les habits de clown, dans les oripeaux de clown de Saint-Antonio et d'y rester, d'y vivre tranquille.
Les gros romans qu'il a publiés vers la fin des années 70 et après, je pense notamment à ce diptyque « Y a-t-il un Français dans la salle ?» et « Les clés du pouvoir sont dans la boîte à gants », qui sont vraiment, moi, que je considère comme des joyaux, quoi. Ce sont des livres magnifiques. Hein. Parce que là, justement, il y a vraiment les deux inspirations, si on peut dire. Enfin, le côté assez rigoureux dans l'écriture de Frédéric Dard, si on peut dire, et la fantaisie, le côté déjanté, quoi, des Saint-Antonio, sans le commissaire Saint-Antonio. Bon, là, effectivement, il essayait d'aller plus loin encore.
Moi, je suis, Juliette. Je suis vraiment tombée en extase sur La vieille qui marchait dans la mer, qui pour moi est un des plus beaux livres que j'ai lus, tout simplement. Justement, où en fait, toute cette truculence, toute cette invention de langage qu'il a, toujours un petit peu gauloise, on va dire, est justifiée par l'histoire elle-même, en fait, j'ai trouvé absolument formidable, quoi. J'ai vraiment adoré. Aussi bien le film n'était pas terrible, aussi bien le roman est un chef-d'œuvre, me semble-t-il. Ça fait partie de mon top 10 des bouquins, en général.
Le premier colloque qui a eu lieu sur Saint-Antonio, c'est donc en 65 à Bordeaux. Robert Escarpi, Sauvy, etc. Est-ce que vous avez pu lire les actes
colloque? Oui, je l'ai lu en bibliothèque. Oui. Et ils se sont interrogés sur ce phénomène d'édition qui était Saint-Antonio. Alors, Saint-Antonio est venu assister au colloque. C'est pas très facile quand on est un auteur de venir assister à un colloque dont on est le sujet. Et alors Saint-Antonio, Frédéric Dard, il a dit « J'ai eu l'impression qu'ils avaient pris ma montre et qu'ils l'avaient mise en pièces détachées et qu'ils n'avaient pas su la remonter. »
Et qu'après, il me demandait de dire l'heure qu'il était.
Oui, c'est ça, voilà. Et en fait, ce colloque a quand même donné un coup de pouce et a projeté Saint-Antonio chez les intellectuels, parce que les intellectuels s'intéressaient déjà à Saint-Antonio, puisque bon, il y avait déjà des contacts, etc. Mais en même temps, c'est ce colloque-là qui a fait sa notoriété et qui lui a donné une assise presque universitaire.
Mais il s'est toute sa vie défendu ensuite d'avoir eu besoin de cette assise universitaire. Il disait « Mes titres de gloire, ce sont mes lecteurs ». Les lecteurs, en 65, il en avait déjà plusieurs centaines de milliers.
Des millions même.
Et pourquoi est-ce que c'était... Il y a un paradoxe là-dedans. Pourquoi est-ce que c'était si important pour lui d'avoir la reconnaissance de l'université qu'il se plaisait à dénigrer par ailleurs?
Quand il était jeune et qu'il écrivait ses premiers romans, il se faisait une couverture genre avec le liseré rouge de chez Gallimard. Et donc, en fait, il se rêvait prix Goncourt, il se rêvait une vraie carrière littéraire.
C'est une poubelle, mon machin. Mais c'est vrai, je vous jure.
J'écrivais gros, puis chacun se démerde.
Mais j'ai écrit gros et il se démerde. C'est ça qui est extraordinaire. Dans mon cas, je veux dire extraordinaire. Pour moi, la volupté de déverser des choses, d'envoyer une benne basculante, hein, et tous mes lecteurs chiffonniers cherchent ce qu'ils veulent là-dedans. Alors, de temps en temps, vous avez un littérateur chevronné qui dit « Oh, regardez ce que je viens de trouver !» Vous voyez, il l'a fait miroiter au soleil. On dit « C'est pas vrai, il y avait ça là-dedans. » Vous comprenez? Les autres qui ont envie de se taper le sauciflard à l'ail, ben, ils se tapent le sauciflard à l'ail. Il y en a plein des wagons.
Il faut reconnaître que, produisant au moins 4 romans par an, on ne peut pas dire que ce soit des romans très fignolés. Vous me direz que les débuts de Balzac, ce n'est pas non plus des romans très fignolés. Donc, de ce côté-là, on peut lui reprocher d'avoir écrit trop vite et de revenir toujours en employant toujours les mêmes ficelles. Parce qu'il utilise toujours les mêmes histoires, ce sont les mêmes astuces qui reviennent, ce sont les mêmes histoires drôles qui sont racontées et re-racontées. Donc il y a une espèce d'engendrement dans la facilité qui fait que par ce côté-là, ça n'est pas de la littérature, parce que la littérature est par nécessité exigeante. En fait, la littérature, le roman aujourd'hui, on le conçoit comme l'héritage de Flaubert. Et Flaubert, c'était un auteur très exigeant.
À aucun moment, Frédéric Dard n'a produit de roman dont l'intrigue était vraiment minable, quoi. Enfin, dans le sens où soit du déjà-vu, soit quelque chose qui tient pas la rampe. Il était quand même assez exigeant. Bien sûr, il y a des intrigues plus ou moins astucieuses. Mais il y a justement le côté même un peu, un côté MacGyver un peu chez Santonio. Souvent, il y a une espèce d'adroit bricolage de trucs. Enfin, on part sur une situation qui est peut-être un peu classique dans le roman policier, mais lui trouve, il ajoute quelque chose d'original, de personnel, notamment dans des intrigues qui relèvent plus de l'espionnage, parce que ça balaye quand même à peu près tout le champ du roman d'action. Enfin, la plupart des gens s'en moquent de ça, mais quand on a un peu étudié la question, on voit que on passe du roman policier classique, il y a même une espèce de pastiche. Lui qui adorait Agatha Christie, par moments il pastiche un peu des trucs d'Agatha Christie. D'ailleurs, il se moque d'elle. Enfin, il la traite de tous les noms. Et on va après vers plus du suspense psychologique. Après, on passe par l'espionnage. Il y a beaucoup de romans d'espionnage en fait dans Santonio. Il y a du roman noir, etc. Enfin, il y a tout, à peu près tout. Je pense que les gens qui parlent sans savoir de Santonio et qui disent que c'est vraiment une littérature très légère devraient en lire, en fait.
Santonio, pour moi, c'était l'histoire d'abord. C'est-à-dire que j'avais envie de savoir comment ça allait se finir, comme tout polar qui se respecte, comme tout bon polar, parce qu'il y en a quelques-uns qui sont vraiment assez formidables en plus. Il y en a quelques-uns, on voit bien, que c'est moins inspiré, on va dire. À ce moment-là, le langage et l'invention venaient toujours faire un contrepoids agréable. Mais moi, je les lisais pour l'histoire, quoi. Vraiment pour l'histoire policière, pour l'ambiance. Surtout les plus anciens, genre En peignant la girafe et les vieux, les premiers vieux. Il y a un truc que j'adore dans Santonio aussi, souvent, et notamment chez Berrurier, c'est assez flagrant, c'est qu'il faut souvent le lire à voix haute pour entendre ce qui se passe, parce que en fait c'est de l'écriture orale, quoi. C'est-à-dire que ça, quand on lit, c'est très surprenant et on n'est pas forcé d'entendre, de comprendre forcément le jeu de mots, l'allusion, etc. Et puis on va se retrouver à le dire à haute voix et là on va comprendre la sonance et la petite ruse, et moi j'aime beaucoup ça. Je trouve que c'est une langue excessivement vivante, inventive, mais ça, c'est pas un scoop de dire ça.
Et ben, j'ai justement là sous la main, dis bonjour à la dame, Juliette. Est-ce que vous voulez essayer de nous lire une réplique de Berrurier
que... Je vais faire celle-là. Non, mais vous l'entendez, cette belette de luzerne, une branleuse qui n'est pas finie de faire, me traiter de Chupa Panotowski. On les entendra toutes cet été. Viens seulement 10 minutes dans mon burlingue avec moi, Mauviette, que je te montre si je suis pas Panotowski. Ça sent encore la crevette que ça vient vous insulter les hommes aboutis, nom de Dieu. Ça ne saurait pas seulement me faire une pipe convenable que ça a tout de même la bave aux lèvres, misère de mes noix. Ah, je te jure, on vit une époque qu'on n'a encore jamais vivue. Elle fait l'effronter, la gueusette. Elle mijore devant vous, mais qu'elle vienne en tête à tête et ça changerait.
La langue, il l'aimait tellement qu'il ne l'a, malgré tout ce qu'on a pu en dire, il ne l'a jamais maltraitée, par exemple, au contraire. Il use de la langue comme d'une personne. Et l'impression que j'avais, c'est qu'il était tout le temps en train d'essayer de la séduire, au fond. Il est incapable d'écrire une phrase ordinaire, ne serait-ce que pour une transition. Non, il ne sait pas ce que c'est que la banalité, que l'ordinaire. Chaque phrase de Dard ou de Santonio est extraordinaire.
Alors,
en fait,
j'ai une petite idée sur la question.
Françoise Rulieteret.
Donc, je pense que dans l'attente de l'écriture du roman populaire, on attend une écriture transparente qui n'attire jamais l'attention sur la matérialité du texte, sur les mots et sur l'écriture. Alors que justement, Santonio s'adresse à un lectorat populaire, mais en même temps, il faut prévenir son lectorat que ce n'est pas des bourdes, c'est des erreurs qui sont faites exprès, parce que le lectorat risquerait de s'y tromper, de dire bah, un tabouret bancal, des tabourets bancaux, et peut-être qu'on risquerait de créditer Santonio d'une faute. Donc, il est systématiquement en train de se dédouaner. Chez Santonio, il y a des effets de soulignement, il y a une espèce de saturation des procédés qu'il découvre au fur et à mesure qu'il les découvre. Et par exemple, le passé simple, qui est donc le temps de l'ère du soupçon, le temps que le romancier d'aujourd'hui n'ose plus employer, surtout que Santonio, il meurt en 2000, donc il est de la fin de la deuxième moitié du XXe siècle, le moment où on a vraiment la mauvaise conscience d'écrire du roman traditionnel. Et Santonio connaît le nouveau roman et il en parle très souvent. Il n'est que les ouvrages de M. Robe Brûlé qu'on peut entreprendre par n'importe quelle page et même lire à l'envers pour leur donner quelque intérêt. Dans cette vieille société époumonée qui est la nôtre, toute histoire comporte un début, une suite et une fin. C'est dans « Bouge ton pied » que je vois la mer, 1982. La mer du Raz, ça en prend aussi quand même pas mal de temps en temps. Hein. Et donc, pour que les passés simples se remarquent bien, je perplexity, on va trouver des formes comme ça. Donc, des formes qui sont vraiment des barbarismes, mais qui sont systématiques. Et donc, il y a cette espèce d'effet d'accumulation dans certaines séries de romans qui font que, ben, on sait que c'est du San Antonio.
Bon, je vais vous dire, un jour, je déjeunais avec Bourville et il m'a dit, quand je lis dans vos Antonio, Berruyer parle toujours de l'ère des matelassiers. Qu'est-ce que c'est que c'était ? Alors, je lui ai dit, il n'existe pas. Ben, il me dit, on va le faire. Et alors, je ne sais même plus, je vous l'avoue à ma grande honte, qui a fait la musique, je ne sais plus. Mais en tout cas, il y a une chanson chantée par Bourville qui s'intitule...
Les matelassiers, voilà les matelas. Les matelas, matelassiers qui passent, ça va carder. Allez, allez, matelassiers, gloire aux matelas, aux matelas et aux matelassiers. Quel beau métier, car il touche toutes les couches de la société, les matelassiers. Les matelassiers.
Salut.
Ah, salut. Ça va?
Ça va. Et toi, la matelas?
Il y a eu toute cette époque aussi, c'était l'époque où il y avait les hors-série avec les dessins de Dubout, là on en parlait, le Standinge selon Berruyer, je regardais ça, j'étais toute môme moi, je regardais les dessins de Dubout dans le Standinge, je ne devais pas comprendre ce qui était écrit à côté, mais je me rappelle des dessins de Dubout dans les Saint-Antonio, ou l'Histoire de France surtout, l'Histoire de France selon Berruyer, que j'ai relu après plus grande et qui m'a bien jeté par terre. Mais voilà, et puis il y a une époque où il y a eu un film, je ne sais pas s'il y en a eu plusieurs. Ouais, une tentation de film. Moi, je ne l'ai pas vu à l'époque. Je pense que je ne le verrai jamais, que ça ne me manquera pas. Parce que je ne crois pas que, par contre, ce soit un univers qui soit tellement transposable au cinéma. De fait, au cinéma, c'est... pour le coup, ouais, les intrigues sont-elles assez intéressantes pour en faire des films ? Je veux dire, pour le coup, on n'est pas dans l'observation sociale à la Simenon. Est-ce que y a quelqu'un qui peut interpréter l'énorme Berruyer, qui est énorme ? Enfin, comme il est décrit dans les bouquins, c'est pas un être humain, ça n'existe pas un être humain comme ça. Et Berthe et sa femme, parce qu'il faut quand même. Et puis Pinot, tout ça, son mégot. Enfin, il y a quand même des personnages. Je crois que ça serait le... Et puis surtout le commissaire Santonio, qui est un personnage qui n'existe pas. On ne sait pas à quoi il ressemble. Et je pense que c'est aussi ce qui est intéressant dans cette série, c'est que tous les personnages autour existent, ont une existence, on décrit, on sait à quoi ils ressemblent. Physiquement, on va s'attarder sur eux. Même sa maman Félicie, on sait comment elle est. On l'imagine bien, la petite vieille, toute fragile, comme ça, toute adorable, toute préoccupée de sa cuisine. Marie, enfin des personnages comme ça, en plus qui durent quoi, sur plusieurs bouquins. Et autant, lui, on ne sait pas à quoi il ressemble. On se doute qu'il est un peu beau mec parce qu'il tombe les nanas comme à Gravelotte. Mais franchement, je n'ai pas le souvenir qu'à un moment, il fasse une description de lui, or une espèce de description de « qu'est-ce que je suis mignon ce matin ?» Mais même pas, je ne suis même pas sûre. Et donc, Saint-Antonio n'existe pas. Alors, le représenter au cinéma serait complètement compliqué. Il faudrait presque faire un film en caméra subjective. C'est Saint-Antonio en caméra subjective qui voit le reste du monde. Ça pourrait peut-être marcher.
Le personnage Saint-Antonio est très difficile à visualiser.
Jean-Pierre Mocky.
Beru, à la rigueur, Jean-Richard, enfin, des gens comme ça, n'était pas trop Coluche ou des gens comme ça, parce que c'est un populaire. Lui. On pouvait imaginer Beru. Mais Saint-Antonio, ce n'était pas Arsène Lupin, ce n'était pas Rouletabille de Gaston Leroux, ce n'était pas... c'est quelque chose d'autre. Et c'est là où ils se sont plantés, parce qu'au cinéma, ils ne sont pas réussis. Ils ont pris Gérard Barré, après ils ont pris... Depardieu faisait Beru et Lanvin. Ils ont pris des acteurs, mais ils ne traduisaient pas Saint-Antonio. Parce que Saint-Antonio... Moi, demain, on me demanderait de faire un Saint-Antonio, je ne sais pas qui je prendrais pour le faire. Et Frédéric, qui était mon ami, finalement, il a aimé aucun des films qu'on a fait de Sant'Antonio. Par contre, il a aimé beaucoup mes films. Et quand on a fait les scénarios, puisque Y a-t-il un Français à Sainte-Marie-Léon, ont été écrits par lui, le bouquin, et ensuite adaptés par lui et moi. Et on n'a jamais eu de problème, si vous voulez, de différence, d'idées. Je n'ai pas dit tu dois sucrer telle scène ou tu dois faire. Alors on était en parfaite harmonie. Ce qui fait que les films que j'ai faits avec lui sont beaucoup plus proches de son univers que les films que d'autres ont faits.
Bruno Fontaine, en bon lyonnais, c'est Sant'Antonio chez les Gones que vous avez choisi d'adapter et d'interpréter seul en scène. Vous jouez tous les personnages, Berruyer et les autres, mais comment faites-vous pour incarner le commissaire Sant'Antonio ?
Je ne joue presque pas d'une manière caricaturale. C'est moi, simplement je suis habillé en costume, il présente bien quoi, le Sant'Antonio, il est quand même, c'est quand même un peu la classe. Quoi. C'est un peu un James Bond, quoi, un James Bond français. Il flambe, il fait le malin, il a toujours raison, il a toujours un temps d'avance sur les autres. Il est intelligent, il frime un petit peu hein, quand même, il faut quand même le reconnaître. Mais c'est de bonne guerre, quoi. C'est un rigolo, le Sant'Antonio, finalement. Berru, on peut penser qu'il est idiot, mais ce n'est pas un idiot du tout. C'est une brute épaisse avec un cerveau qui fonctionne bien, il fonctionne parfois au ralenti, mais il est intelligent, Berru, ce n'est pas un idiot. Pour mener l'enquête dans ce petit village où les enfants disparaissent, il décide de devenir instituteur pour passer inaperçu. C'est une très bonne idée. Seulement, il a sa manière à lui d'apprendre aux enfants. Il joue aux cartes. Hein, c'est une bonne manière de progresser dans la vie. Il joue aux cartes en buvant du vin. Voilà, ça c'est Berru. Hein, il boit du Beaujolais puisqu'on est, on est à Lyon. Donc, il en profite pour goûter un petit peu le vin du cru.
Cugnazé ! Faudrait voir à pas prendre le portrait du bonhomme pour une portion de brie ! Tu fournis à trèfle, Astor. Alors, ce qu'il n'y a pas un instant, tu les coupais. Moi, monsieur, je sais ce que je cause.
Effectivement, un misérable set de trèfle souille l'harmonie des cœurs.
Qui c'est qu'il a dans l'œuf, hein? Qu'est-ce que t'espérais, dit tordu, qui verrait Balpo? Ou je sais pas ce qui me retient de te cloquer 10 fois l'adverbe, je blouse mon instituteur en jouant à la tout à tout sans atout.
Il chope le litre, et pour éteindre sa hargne, s'arrose l'escalier de la cave. Après quoi, il le tend à Barbarin, son partenaire.
Tiens, gamin, humecte-toi les amygdales. À cause de cet enfoiré, le coup est nul et non l'avenue.
Ben voilà, on annonce tout de suite la couleur. La partie de cartes s'annonce animée avec Berru, toujours.
Écoute. Non, mais j'ai l'air de me marrer comme ça, mais je suis en pétard. Ah oui, tu rigoles. Je suis dans un pétard, tu peux pas ça avec mon fils.
J'avais été frappé il y a...
J'ai un fils.
J'ai l'urette, hein. Par un chansonnier que vous avez peut-être oublié, et qui s'appelait Roger Nicolas. Et Roger Nicolas avait un truc qui disait « écoute ». Vous savez, aux gens, il disait « écoute ». Et il racontait une blague, et puis les gens se marraient, etc. Il disait « non, écoute ». Bon. Et j'avais gambergé à cette « écoute ». Cette façon d'apostropher, de maintenir et de tutoyer une salle.
Ah oui.
C'est-à-dire de tutoyer chaque mec, chaque spectateur. Et je me suis dit, il faut faire comme ça. Voilà, il m'a enseigné quelque chose sans le vouloir.
Alors, c'est quelque chose que lui a dû inventer de son côté, mais c'est quelque chose qui existe dans le roman, surtout dans le roman parodique, depuis très longtemps. Si vous prenez Nodier, le roi de Bohème et ses 7 châteaux, l'auteur s'adresse tout le temps à son lecteur. Prenez Jacques le Fataliste, c'est pareil. Hein. Où était-il? Qu'allait-il faire? Et si tu crois, lecteur, que je vais te répondre. Donc, il y a un peu de ça. Mais ce qui est amusant, c'est que le lecteur que Frédéric Dard vise, c'est par-dessus la tête d'un lecteur imbécile, un lecteur très intelligent. On s'en aperçoit dans certaines formulations. Où il brutalise un petit peu ce lecteur imbécile et il fait alliance avec un lecteur beaucoup plus intelligent pour se moquer du lecteur imbécile. Donc il y a des jeux extrêmement compliqués en fait avec le lecteur et il n'y a pas un lecteur. Alors des fois il s'adresse aux dames, des fois il s'adresse aux messieurs, des fois il s'adresse aux jeunes, des fois il s'adresse aux vieux. Mais surtout il y a ce jeu entre le lecteur au premier degré et ce lecteur qui est forcément un intellectuel, avec qui il fait alliance sur le dos du premier lecteur.
Je crois que le paradoxe, le grand paradoxe, c'est que justement, il n'arrête pas de s'adresser au lecteur, quitte à l'invectiver joyeusement, bien sûr, mais comme ça a l'air d'être du deuxième degré, le lecteur, lui, est ravi d'en prendre plein la figure. Mais je pense qu'au fond, il pensait qu'à lui. Je pense pas du tout, je pense qu'il n'avait rien à faire des lecteurs réellement. Enfin, je veux dire, il avait envie d'en avoir, évidemment, et de plus en plus. Mais je pense qu'il y avait un petit jeu assez vicieux du fait que, bon, c'était lui, quoi. Lui avant tout. Cette espèce de personnage isolé comme ça dans le monde, qui se permettait de dire absolument n'importe quoi, mais qui, au fond, il était bien content de vivre assez loin de ses lecteurs pour qu'on lui fiche la paix.
Bonjour, madame. Officier de police, Paul Pollet.
Entrez, oui. Je vous ai aperçu en bas ce matin pour les constatations. Excusez-moi, c'est l'heure de mes chats. J'arrive.
Minou.
Vous connaissiez le vieux bonhomme ?
Ben, vous savez, en voisine, comme ça. Bonjour, bonsoir. Son chien est une sale bête qui fait la guerre à Miminet.
Vous savez qu'il s'est pendu ?
Ben, j'ai appris ça, oui. Et il s'est pendu comment ?
Tout bêtement, avec une corde.
Ah. Alors, il y avait cette espèce d'ambiguïté chez Dard, qui était un homme généreux, mais en même temps un type qui avait une vie bizarre. C'est-à-dire, il avait un peu la vie de ses personnages. Il avait un sens de la dérision que j'ai aussi, d'ailleurs c'est pour ça qu'on s'entendait. Et cette dérision, si vous voulez, en fait, faisait que sa vie était... Il avait une vie familiale à laquelle il tenait, dans laquelle il y avait sa fille et la petite. Joséphine, il y avait sa femme, Françoise, et il y avait ce garçon, cet enfant adopté, ce noir bizarre qui était là. Et il y avait une vieille bonne, comme dans les romans, une vieille gouvernante suisse, avec l'accent vaudois, etc. Donc on vivait comme ça, on arrivait là-bas, dans la maison, moi j'avais ma chambre, et on se mettait au travail, comme d'habitude, à 6h du matin, jusqu'à 10h. C'est toujours cette période qu'il utilisait pour écrire. Donc, quand je travaillais avec lui, c'était ça, 6h, 10h. Et puis un jour, alors il avait son journal qui arrivait tous les matins et qui était posé à un endroit dans la salle à manger où il prenait son petit déjeuner, parce qu'il se levait plus tôt que les autres. Et un jour, il s'est passé une chose terrible. Je me suis battu avec un journaliste, une ordure, qui travaillait à la tribune de Genève. Pourquoi ? Parce que notre film, Y a-t-il un français dans la salle, venait de sortir en Suisse, et ce journaliste avait détesté le film, pour des raisons, et puis il détestait Dard de toute façon. Or, Dard avait fait une tentative de pendaison, à un moment donné. Il avait, à la suite de certains déboires sentimentaux, qui venaient d'avant, François, d'avant cette femme qui est de l'éditeur, il avait pris un tabouret, il était monté, il s'était passé la corde au cou. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que quand le français dans la salle est sorti à Genève, il a fait un article dans lequel il a écrit « Quel dommage que Dard ne se soit pas pendu ». Alors moi, je suis parti, je suis allé casser la gueule au journaliste. Et puis, c'était dans le journal, la critique, cette critique dont je viens de vous parler. Et nous, comme il avait son journal le matin, on a sucré le journal.
La seule chose qui compte pour moi, justement, c'est mon cœur. Et mon cœur, le donner, pour moi, c'est tout. C'est... Comment est-ce qu'on peut concevoir d'exister sans concevoir de donner ? Donner, mais donner, c'est tout au monde. Enfin, je ne veux pas avoir l'air d'être une espèce d'abbé Pierre au petit pied, c'est pas vrai. Mais enfin, je donne sans arrêt.
Il avait aussi un côté très émotif auquel il a laissé, oui, sans doute de plus en plus court au fur et à mesure des années.
Complètement, oui. Moi, je me rappelle un départ à Genève. Il y avait la maison d'Aznavour, pas loin, je me rappelle. Il m'a raccompagné à la gare. Et là, il s'est mis à chialer, mais vraiment, il me dit tes mots. Alors, parce qu'en plus, c'est quelqu'un qui prenait constamment des nouvelles de votre famille, quoi. Comment sont tes mômes et tout. Et tout d'un coup, il s'est mis à acheter autour de moi tous des plaques de chocolat, des bouquins, des sucettes, des meufs, et à me fourrer ça dans les poches. Mais c'était insensé, quoi. C'était une scène qui était totalement incohérente, vous voyez.
Donc il pleurait. Et à toute occasion, il pleurait quand sa fille est partie, il pleurait là, il pleurait pour l'anniversaire de sa fille, il pleurait. Il pleurait chaque fois qu'un copain mourait, il pleurait, quoi. C'était un type. Et ça accompagnait d'une lâcheté qui était reconnue par lui. C'est-à-dire, il dit « je suis lâche ».
Jean-Pierre Mocky.
Parce que quelquefois, un jour, on passe dans une rue, il y avait un ancien ami à lui qui était dans la dèche. Mais enfin, pas, il n'était pas SDF, mais c'était un mec qui l'avait connu, je ne sais pas, il était au moment où il était journaliste, il avait connu un type qui était son copain, mais le type était devenu une merde, il était devenu... Et alors, on passe à côté de lui, il me dit, bien, il m'a écarté, il ne voulait pas voir le gars, parce qu'il avait, il était trop lâche pour parler avec son ancien ami. Et ça, c'était un de ses défauts, parce qu'il avait beaucoup de qualités, mais ça, c'était un défaut. Et moi, il m'a fait le coup avec Jean-Marie-Léo, parce qu'au bout d'un an, j'avais plus de nouvelles de lui. J'ai dit, mais écoute, il faudrait qu'on fasse quelque chose, on ne va pas laisser ce Marie-Léo dans la merde comme ça, sans qu'il ressorte. Et là, il a dit non, c'est qu'il raté, on n'en parle plus, etc. Il a été très sec, donc il a laissé son œuvre et la mienne donc dans la merde.
Il y a toujours cet antagonisme entre l'apparence physique et l'âme. Je veux dire, j'ai l'âme d'un mec déchiré et j'ai le corps de Boubouroche. Et ça, c'est quelque part, c'est difficile à assumer. Je veux dire, je devrais avoir la gueule de Raskolnikov si vraiment on voulait que ça s'emboîte bien. Vous voyez, mon physique et mon moral. Et puis non, j'ai l'apparence d'un gros mec bedonnant, tranquille, un père tranquille.
Il y avait quelque chose de fascinant, il y avait évidemment ses yeux bleus.
François Rivière.
De grand séducteur, quoi. C'était quelqu'un qui faisait un numéro de charme absolument permanent, mais vis-à-vis de tout le monde. Donc on pouvait pas, après, il fallait faire le tri pour savoir si dans le tas, il y avait des gens qui l'agaçaient et d'autres qui lui plaisaient un peu, quoi. C'était vraiment un charmeur, mais c'était vraiment dans sa nature, hein. Il avait envie, il aimait ça. Il était très, très convivial, comme on dit. Mais par ailleurs, sa femme, sa seconde femme, disait qu'il pouvait rester 3 jours sans parler chez eux. Donc il faut faire le... Il faut nuancer les choses, quoi.
C'était un homme qui aimait le cul parce que ça le faisait vivre. C'était un de ses éléments de vie. Donc, il les avait introduits, évidemment, dans les films, en employant ce langage tout à fait imagé qui le caractérise et qui a fait son succès. Si vous voulez, il avait ce côté-là. Donc ça rejaillissait sur son écriture. Hein, ça a été un des trucs. Deuxièmement, il était assez proche des gens. C'est-à-dire, c'est un type qui pouvait prendre des exemples. Il allait dans des bistrots, il voyait des gens et puis il les croquait après. C'était un peu comme un dessinateur, si vous voulez. Il avait beaucoup le sens de l'observation. Et il fréquentait des lieux où on n'a pas de la débauche, mais on a du pittoresque, des filles avec des balconnets. Vous voyez, c'était ce truc-là. Alors, ça donnait à tous ces bouquins un côté un peu sulfureux. Et je ne pourrais pas avoir lu un livre de lui où on ne parle pas de cul.
J'ai fait une communication sur la réécriture du Kama Sutra. C'était l'année dernière. Là, je voulais faire la différence entre ce qui était la pornographie et la paillardise. La pornographie ou l'érotisme va éventuellement suggérer des positions, alors que la paillardise va essayer d'abord et avant tout de nous faire rire, même si il y a évidemment des connotations sexuelles derrière, comme dans le jeu de mots freudien. Donc, si vous voulez, je peux vous en lire. Ainsi, j'aurais tendance à déclencher ma mitraillette à véhémence sexuelle pour vous amorcer que je lui fais. Le store vénitien, la bouillabaisse hongroise, la racine du ciel, le collier de Néfertiti, la colonne Nelson, mort à Trafalgar en 1805, le cratère géant, le pneu tubeless, le paratonnerre avec poche à foudre, la marche arrière capricieuse, l'astronaute décapsulé, le manche à gigot écarteleur, la tartine beurrée, l'ermite à moustache, la fin des arts déco, la croche nombril, l'anneau de Saturne, la seringue sous-cutanée, la flèche ballonne, le tramway nommé Désir, la soutane aux orties, la vie des saints, la banane épluchée, la fin des lionceaux, la marche de la deuxième BP, la tondeuse à gazon, le thermomètre à percussion, le fixateur à blanc d'œuf, le grand et le petit Strombies, la figue confite, le bain du canari, la mangue de Lady Chatterley, un truc exotique, le bidon renversé et la baguette à modulation de fréquence. Alors, il y en a certains, ça suggère bien des choses, surtout quand il y a des baguettes, qu'il y a des colonnes, etc. Mais la plupart du temps, on se demande de quoi il peut bien s'agir. Donc, il y a quand même, derrière, il y a des jeux de mots qui vont réveiller le sens obscène. Parce qu'en fait, il suffit qu'ils disent qu'il est en train de faire l'amour et que dans la liste, il y ait les trois lanciers du Bengale pour qu'automatiquement, on se mette à chercher des connotations obscènes dans tout, même dans la toupie japonaise. Donc, on va en trouver forcément.
Est-ce que c'est grossier, est-ce que c'est vulgaire, moi je ne sais pas, mais c'est autre chose en fait. C'est là, il y a vraiment un jeu avec les mots et avec justement les choses de l'intimité la plus totale, quoi, c'est-à-dire de la scène la plus intime. Et puis avec justement des personnages que toujours choisis, c'est-à-dire que bien entendu, c'est pas par hasard si Berruyer est devenu de plus en plus rablaisien, mais encore au-delà, quoi, et où sa femme, Berthe Berruyer, devient encore plus, encore plus loin, si on peut dire, et le personnage de Santonio qui, lui, ramène toujours ça à côté, garde la tête froide, si on peut dire, au milieu de tout ça, quoi. C'est un séducteur, bon, c'est vrai qu'il est, c'est un macho absolu, mais enfin, on sent qu'il y a un jeu aussi là-dessous, donc voilà, mais c'est vrai que des grandes raisons du succès de Santonio, c'est quand même aussi, oui, les scènes de sexe, mais on est loin de SAS, quoi.
Ah, il laisse à dire que je viens d'envoyer rebondir le vieux carabinément, mon pote. Il rappelait pour xième fois, en gueulant, qu'on allait voir du saignant. Alors j'y ai répondu comme quoi il aille vite dans le quartier de la Goutte d'Or, se faire chibrer par un arbi, et qu'ensuite, si ça lui suffirait pas, on pourrait toujours y enfoncer une bouteille de Perrier dans l'Oigne. Je m'ai permis d'ajouter que ces gueulanches, dorénavant et désormais pour nous autres tous, c'était ras-le-bol et contour. Et comme il essayait d'en placer une et que je venais providentiellement de boire gazeux, je te lui ai mis une série de burg-burg à bout portant dans les baffles que ça a dû lui écorcher les trompes de gêne. Après avoir accroché les wagons, j'ai raccroché le téléphone. Si bien, mes mecs, qu'il va falloir nous attendre à des représailles sanglantes. Il s'inscrit aussi dans une tradition rablaisienne. Enfin, je veux dire, Berruyer n'est rien de plus qu'un avatar de Pantagruel, évidemment. Donc, qui baise comme un fou, qui bouffe tout le temps, il n'y a que ça qui l'intéresse, etc. Donc, je veux dire, on est là dans un personnage de caricature, en même temps qui va évidemment agglomérer sur lui tous les excès. Et on a besoin d'excès, en plus. En tout cas, il y a une chose qui est très amusante, c'est de relire du Santonio maintenant, parce qu'on s'aperçoit que le politiquement correct a fait un putain de dégât, parce que je pense qu'il y a des choses qu'écrit Frédéric Dard à l'époque qui seraient absolument pas écrivables sans procès aujourd'hui, carrément, je pense, vraiment. Donc maintenant, ça existe, c'est bon, c'est fait, heureusement, parce que peut-être on est moins familier avec le second degré, parce qu'effectivement, on fait beaucoup plus attention à ne pas heurter les uns les autres, à ne pas appeler une chatte, et je trouve ça toujours un peu dommage.
On les a à la surprise, parce qu'ils achètent un San Antonio pour lire une bonne histoire, enfin, une bonne histoire, je veux dire, une histoire policière, hein, ficelée avec tout ce que ça comporte de cadavres derrière la lourde, et de coups de pétard et de Berruyer qui s'assied dans la tarte à la crème, vous comprenez? Et puis, brusquement, on peut leur filer, blaf, une idée comme ça. Et si vous êtes raciste, vous êtes des cons. Moi, voilà ce que je fais. Si vous êtes pour la guerre, si vous aidez en quoi que ce soit la guerre, mais je vous défends d'être des imbéciles. Il faut défendre aux gens d'être des imbéciles. Et c'est ce que j'ai envie de dire aux gens, ce que je leur dis dans mes bouquins. Entre deux coups de revolver et une pomme cuite sur la gueule de Berru, ben je leur dis, soyez pas cons.
Après, il y a une époque dans son écriture où ça devient beaucoup plus politique, finalement. C'est-à-dire qu'il parle beaucoup plus du monde dans lequel on vit, il parle beaucoup plus du monde qui l'entoure, des choses qui se passent. Et puis, il en fait la critique, souvent très drôle, d'ailleurs. Parfois un peu réac, mais bon, il n'était pas exactement un modèle d'homme de gauche, on va dire. Quoique, ce n'était pas non plus complètement un homme de droite. On dirait aujourd'hui un social libéral.
On est quand même dans le moralisme le plus rigoureux. Hein. Comment est-ce qu'il faut élever les enfants? Eh bien, il faut les élever comme on les élevait autrefois. Comment faut-il se comporter face à la littérature? Ben, il faut connaître les grands auteurs. Enfin,
Comment faut-il se comporter en politique? Parce que c'est aussi un peu difficile d'arriver à déterminer quelle est la position politique de Frédéric Dard à partir des San Antonio. Parce qu'il dit qu'il est anarchiste de droite, il dit aussi qu'il est anarchiste de gauche. Donc, en fait, il est anarchiste, mais est-ce que là, la droite et la gauche ne se retrouveraient pas?
Je crois que le mot moraliste n'est pas exactement celui qu'il faudrait employer. Non, c'est quelqu'un qui en avait après beaucoup de choses, après beaucoup de gens. Bon, dans tous les premiers San Antonio, le narrateur, bon, qui est censé être un flic français, et qui est un flic sacrément littéraire, enfin, on voit bien que c'est quand même Frédéric Dard qui s'exprime directement à travers ce personnage. Il en a réellement après tout le monde. Bon, mais avec un espèce de bon sens, avec un côté bien français, quoi, si on peut dire, de... qui commence par râler, qui réfléchit après, quoi. Je crois que c'est en 1960, dans un de ses romans, il dit quand même que qu'est-ce que c'est que ce pays où on censure les films de Vadim, mais on ne peut rien dire sinon d'aller, quand on a 18 ans, se faire tuer en Algérie. Effectivement, il y avait une espèce de vision comme ça, assez au ras des pâquerettes, mais qui était quand même... qui devient presque historique, quoi.
Un San Antonio, c'est un polar anarchiste, en fait, tout à fait, oui. C'est-à-dire, on dirait plutôt aujourd'hui, enfin, anarchiste n'est pas tellement le mot, parce que ça vous a une connotation péjorativement politique, je dirais, ce qui n'est pas ça. Je dirais plutôt que c'est le chaos, c'est grunge, c'est déconstruit, c'est, vous voyez, destroy, vous voyez, un peu comme ça, voilà. C'est son côté anar qui s'exprimait comme ça. Mais c'est très amusant, parce qu'au fond... Il faut passer par le jeu, par la puérilité même éventuelle de ce qu'il propose, ou la trivialité, vous voyez. Mais il y a une philosophie derrière, bien sûr.
C'était Frédéric Dard, dit San Antonio, avec Françoise Rullier-Teret, chef du département de langue française à l'université Paris-Sorbonne d'Abu Dhabi, Juliette, chanteuse, Jean-Pierre Mocky, cinéaste, François Rivière, biographe de Frédéric Dard, éditeur de l'intégrale San Antonio dans la collection Bouquins chez Robert Laffont, Jean-Louis Hézine, journaliste, chroniqueur à France Culture, Bruno Fontaine, comédien, et la voix de Frédéric Dard.
Non, j'ai passé des nuits et des nuits blanches à écrire, à pondre, à me défoncer, pour gagner du pognon. Bon, j'y suis arrivé merveilleusement, magnifiquement. Et puis je me suis dit, et après, il y a déjà quelques années, je me suis dit, dès que ça a commencé à fluer, je me suis dit, et puis, bon, tu l'as décroché, la timbalée, alors, qu'est-ce que tu vas faire? T'es heureux, t'es chouette, tu te fais construire des maisons avec des piscines, avec des trucs, et puis qu'est-ce que ça prouve?
Vous avez envie de quoi?
Je sais pas de quoi j'ai envie. C'est peut-être ça mon drame. J'ai envie de paix, surtout. J'ai envie d'avoir une grande paix intérieure. Jusqu'ici, je l'ai encore pas eue. Je cherche, il me semble que ça me ferait du bien. Je sais bien que je l'aurai un jour ou l'autre, hein. Mais enfin, la définitive, quoi. Mais avant, je voudrais faire une petite répétition. Me sentir bien dans ma peau un jour ou deux, même, vous voyez. Et ça, j'y suis pas encore arrivé. Mais enfin, je désespère pas.
Recherche d'archives Alina Sophie Rielan, prise de son Arthur Gerbeau, mixage Benjamin Vignal, attaché d'émission Laurence Genepin. Une émission de Victor Massé de Lépinay et Jean-Claude Loiseau.
Une œuvre de l'été avec aujourd'hui San Antonio par Victor Massé de Lépinay et Jean-Claude Loiseau. Nous nous retrouvons la semaine prochaine autour d'une thématique design qui va courir sur les 4 prochains numéros. Et nous commencerons avec Pierre Paulin